أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة أيها الأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet qui va nous intéresser là maintenant est un sujet, vous allez vous en rendre compte, dont on a peu l'occasion de parler. On parle souvent de la situation de la femme, je l'ai dit. On met souvent en évidence le fait qu'il y a des problèmes, et loin de moi l'idée de laisser entendre que ces problèmes n'existent pas. Entre ce que nous enseigne le Coran et la tradition du prophète Rasulullah et ce que nous faisons concrètement sur le terrain, dans nos vies quotidiennes, dans la réalité de notre compréhension de l'islam, il y a de vraies attitudes qui sont déficientes, de vraies discriminations. Il faut de ce point de vue-là, effectivement, faire la part des choses. Et lors d'un précédent séminaire, j'avais mis en évidence la réalité de ce problème à l'intérieur de nos communautés, et beaucoup de réactions avaient été suscitées qui mettaient en évidence le trouble que ce discours peut encore aujourd'hui provoquer à l'intérieur de nos communautés. De notre communauté. Aujourd'hui, après avoir fait une première partie sur la femme en islam, on va parler de l'homme en islam, et on va en parler parce que autant il est vrai que sur la question de la représentation que les femmes ont d'elles-mêmes, sur le discours musulman islamique lui-même, sur les droits et les responsabilités qu'il y a aussi dans cette perspective en islam, et sur le rôle des femmes. Autant dans chacun de ces domaines, il y a effectivement des réflexions que nous devons mener, autant il est de toute urgence nécessaire que nous développions une vraie réflexion sur l'homme à l'intérieur de la communauté, mais l'homme au sens masculin du terme, par rapport aux défis de notre société. Et là, ça va nous amener à regarder la réalité en face. Et encore une fois, nous ne devons pas, quand nous traitons la question de la femme ou la question de l'homme, supposer que quand on parle des femmes, il faut être entre femmes, et quand on parle des hommes, il faut être entre hommes. Et la question des femmes et la question des hommes concerne toute une communauté qui doit relever le défi d'un certain nombre de déficiences, d'un certain nombre de manquements, d'un certain nombre de problèmes de première importance. Et si nous observons la question aujourd'hui des hommes dans notre communauté ou dans notre société, on va s'apercevoir qu'il est un certain nombre de problèmes tout à fait particuliers que nous devons observer en face les uns et les autres, parce que de cela va naître une responsabilité commune à l'intérieur de notre communauté, à l'intérieur de notre collectivité, de notre communauté de foi essentiellement. Alors, quelle est la nature, ou quels sont les problèmes, et de quelle nature sont les problèmes que nous voyons aujourd'hui ou que nous pouvons déceler pour l'homme dans la société qui est la nôtre, et en même temps dans les communautés ou dans la communauté musulmane en tant que telle. Alors évidemment, en l'espace du temps d'un cours, on ne peut pas être exhaustif, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas couvrir l'ensemble du problème, mais il y a quand même un certain nombre de choses que l'on peut mettre en évidence, mettre en exergue. Quatre domaines essentiels sur lesquels il y a vraiment problème. Le premier problème que l'on a, c'est celui de l'être du musulman de l'homme musulman quand il veut être avec Dieu, quand il veut protéger sa spiritualité dans cette société, dans sa communauté. Au niveau de l'être, nous avons effectivement un problème, nous allons y revenir. Le deuxième des problèmes avec l'être, c'est un problème d'équilibre. D'équilibre à l'intérieur de soi, où il faut quand même que nous admettions une chose, énormément d'hommes dans la communauté musulmane ou à la périphérie de cette communauté au sens restrictif comme au sens large. J'entends par là le fait qu'il y a certains musulmans qui sont musulmans pratiquants, d'autres musulmans qui sont des musulmans, ils disent je suis musulman mais ils ne pratiquent pas, puis d'autres qui sont musulmans d'origine et de tradition mais qui ne se reconnaissent pas en cela. Et bien, tout cet ensemble-là, si tant est qu'on doit considérer en plus l'ensemble, eh bien on a un problème d'équilibre. Il y a aujourd'hui vraiment, dans notre communauté, pour les hommes, un problème d'équilibre intérieur. Il y a beaucoup de déchirements, beaucoup de problèmes intérieurs. Et je crois qu'on s'occupe beaucoup dans notre communauté. Mais ça, c'est une, à mon sens, je vais le dire comme je le sens, c'est une perversion de notre intelligence par rapport à notre religion. On dit oui, mais toute la question entre l'homme et la femme, c'est une question de droit, c'est une question de devoir, et puis 99% des fois, quand je dois intervenir sur la question de la femme, quels sont ses droits, quelles sont ses obligations, on est devenu, dans notre discours sur l'homme et la femme, à l'exemple de code de la route, quoi. Quel droit, quel devoir. Et puis on suppose que quand on connaît ses droits, quand on connaît ses devoirs, ça marche comme sur des roulettes. C'est faux. C'est faux. Les problèmes sont beaucoup plus profonds que cela. Et l'idée, par exemple, que l'homme, puisque la femme, elle est en train de lutter pour que soit reconnue ses droits, l'homme donc il a lui des droits, et donc puisqu'il a des droits ça va, comme si dès que tu as tes droits, tout va. Et c'est méconnaître la réalité de l'équilibre pour les hommes aujourd'hui, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, une question, un gros problème d'équilibre intime, d'équilibre spirituel, d'équilibre social, et qui nous amène au troisième des problèmes, c'est celui de l'image que les hommes ont d'eux-mêmes. Et là, c'est pas simple, parce que notre société a énormément changé les choses. Et que l'image que l'homme pouvait avoir dans les communautés musulmanes, dans une société, par exemple, comme c'est au Maroc, ou en Algérie, ou en n'importe quel pays majoritairement musulman, eh bien, cette image également a changé. Vous êtes dans une société qui met à mal l'image que l'homme peut avoir de lui-même. Qu'est-ce que je suis finalement dans cette communauté, dans ma famille? Il y a un problème d'image et vous allez le voir, je vais aussi beaucoup insister sur cette donnée. Quatrième des problèmes importants que nous trouvons pour l'homme, c'est celui de son rôle. C'est celui de son rôle puisque tous les psychologues qui se tournent et qui s'orientent, qui orientent leur analyse sur ce qu'on appelle, par exemple, la psychologie sociale, ou ce qui concerne la réalité de la famille, ou ce qui concerne également l'évolution de la notion d'autorité dans nos sociétés, mettent en évidence le fait qu'il y a de vrais bouleversements dans le rapport que l'on a à l'autorité. Et qu'est-ce qui, souvent dans les sociétés traditionnelles, portait la dimension de l'autorité? C'était l'homme. Et donc là, il y a un vrai problème. Et on s'aperçoit que même au sein des familles, le rapport à l'autorité, donc le rôle même, encore une fois, je ne dis pas qu'en islam, l'autorité est uniquement pour les hommes, c'est faux. Mais ce que je dis, c'est que la question de l'autorité a été tellement bouleversée, le rapport à l'autorité a été tellement bouleversé, que ça a un rapport sur le rôle de l'homme, forcément. Et qu'il faut qu'on en parle, et il faut qu'on en parle de façon extrêmement directe. Donc on a, aujourd'hui, un certain nombre de domaines sur lesquels, pour un homme, les choses ne sont pas acquises et ne sont pas simples. Et je vais le dire comme nous le vivons, je vais le dire comme certains d'entre vous le vivent avec énormément de douleur dans cette salle, comme aussi à l'extérieur. Être un homme musulman, fidèle à ses principes musulmans, mais vivant dans une société en Occident, c'est extrêmement difficile. Au vu de ces quatre domaines, la dimension de l'être, la dimension de la représentation que l'on a de soi, de l'équilibre intime et en même temps du rôle. C'est difficile. Et là, on peut après. Quels sont les droits de la femme? Quels sont ses devoirs? Quels sont les droits de l'homme? Quels sont ses devoirs? Et puis, sur le couple, on a l'impression que dès que tu as le code de la route, tu sauras conduire le couple. Et ça, c'est pas cette réalité-là. Et on ne vivra pas ni personnellement, ni en couple, ni en famille, comme si on était des robots. Il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut que l'on garde en face et qui sont déchirants et qui déchirent beaucoup de personnes. Alors allons directement au cœur de la question. La première des choses que nous savons, et je l'ai dit et je le répète, et ça c'est un discours qu'on peut avoir pour l'homme comme pour la femme, on sait une chose. On sait, et je l'ai répété tout à l'heure, qu'il y a à l'intérieur de nous, oui, qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui nous fait aimer. Et Dieu est la vérité. Et qu'à plus forte raison, quelqu'un qui dit « La ilaha illallah » et qui dit « Moi, je suis musulman », il est en train de dire « Il y a quelque chose que j'aime dans cette relation que j'ai avec la vérité. Et quand je dis la vérité, je me sens bien. » Ça, on le sait. Mais on sait aussi qu'il y a à l'intérieur de chaque être des choses qui le poussent aussi à se laisser aller vers le mal. Et c'est ce qu'on mettait en évidence tout à l'heure par rapport à se laisser aller et des pulsions qui sont à l'intérieur de nous, des instincts qui nous font, de ce point de vue-là, vivre avec nous-mêmes dans un rapport où ça demande un effort pour rester fidèle à nos principes islamiques. Bien. Dans quelle société vivons-nous quand nous sommes aujourd'hui en Europe? Dans quelle société vivons-nous? Nous vivons dans une société qui met énormément l'accent, avec une insistance telle que c'est parfois une agression, c'est souvent une agression, sur tout ce qui stimule la dimension instinctive, et en particulier par l'usage de tout ce qui va être par rapport à l'homme, la dimension féminine. Et là, il faut qu'on soit clair, parce qu'on peut venir tourner autour du pot. Moi, je vais prendre les choses comme elles sont. Quand vous êtes dans la rue, ici à Roubaix, ou dans n'importe quelle ville en Europe, ou quand vous regardez, pour certains d'entre vous, la télévision ou les publicités, vous le savez, même vous le savez intellectuellement, mais souvent on le sait intellectuellement, mais on ne va pas jusqu'au bout de ce que ça veut dire socialement. Vous savez que vous êtes dans une société qui, au nom d'une certaine vision de la consommation, une certaine vision de l'homme, va énormément insister sur la stimulation de l'instinct. Quand vous avez aujourd'hui des publicités pour du savon, pour des voitures, pour n'importe quel produit, l'un des éléments les plus immédiatement percutants pour la consommation est l'usage de la femme. Et la femme, dans ce qu'il y a, en l'occurrence, et c'est pour ça que c'est un problème d'hommes et qu'il faut le regarder en face. Mais pas que les hommes. Toute notre communauté doit regarder cela en face. Parce qu'il faut savoir ce que peut vivre un homme dans une société comme celle-ci, où la volonté de consommation est énormément liée à la stimulation de l'instinct. Une stimulation qui est une stimulation qui peut être, de ce point de vue-là, extrêmement agressive. Extrêmement agressive. Et sur le plan du fait d'être dans la rue, ici en France, ou quand on est en face de la télévision, et quand on a des principes moraux, quand on a envie de plaire à Dieu, ben on fait face à cela. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment ça se vit, ça? Là, je vous prends un exemple. J'arrive, je ne sais plus dans quelle ville, en avion, je sors de l'avion, et vous suivez le troupeau des passagers de l'avion. Et puis on vous dit, ben, tu vas là, tu tournes à gauche, tu vas à droite, et puis vous suivez. Bon, ben vous suivez. Et il se trouve que là, il y avait un couloir, il n'y avait pas 36 000 possibilités, vous ne pouviez pas marcher à reculons, il fallait marcher en regardant droit devant vous. Et on arrive, et c'était comme ça. Voilà ce qui m'arrive, et je vous dis, bon, vous allez voir que beaucoup vont reconnaître des situations qui arrivent à tout. On prend le couloir, à tout ceci, et à un moment donné, on arrive devant un couloir, vous savez, un escalier roulant. J'arrive, je suis le truc. Et au moment où vous arrivez en face sur l'escalier roulant et que vous descendez l'escalier roulant, qu'est-ce qu'il y a en face de vous? une énorme affiche. 5 mètres sur 8, un énorme affiche en face. Vous ne pouvez pas regarder ailleurs, elle est en face de vous. Sur quoi? Sur un bikini. Vous voyez l'image? Bon, vous êtes comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous tournez la tête. Vous baissez les yeux, vous vous souvenez de ce que le prophète a dit à Ali. Le premier regard, il est normal, c'est le deuxième qui compte. Alors, hop, vous baissez les yeux. Puis après, vous réfléchissez, vous dites, si j'ai dans la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le temps, on doit avoir les yeux collés au béton. Et la marque distinctive des musulmans en plein milieu de Roubaix, c'est quoi? Ils regardent par terre. C'est ça. Ça voudrait dire si effectivement on savait et on pouvait se protéger de la réalité de l'agression par l'image et de la stimulation des instincts. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'effectivement aujourd'hui dans une société comme la nôtre, ce qui est un des éléments les plus difficiles pour l'équilibre et qui doit être compris par tout le monde et vu comme ça l'est et pas faire semblant, parce qu'il y en a certains d'entre vous quand tu leur parles de ceci, ils disent « Arouzoubillah, quoi tu parles ?» Pas, moi, je ne suis pas atteint par ça. Oui, tu n'es pas atteint par ça. À d'autres. La réalité, c'est qu'on est atteint par ça. Et que ceci est une agression dans cette société-là pour qui a envie de vivre avec un minimum d'éléments moraux. C'est-à-dire de protéger son regard. Alors si le prophète dit à Ali, il lui dit, baisse ton deuxième regard, il est en train de lui dire, il faut que tu te protèges. Et ça, c'était dans une société où on était loin de ce qu'on est en train de vivre là. Donc dans une société où déjà il y a une protection morale, il lui dit attention. Eh bien nous aujourd'hui, la protection de ses repères, elle n'existe pas. Ça veut dire que pour quelqu'un, un homme, qui doit se protéger dans cette société-là, il doit y avoir un renforcement de son rapport à sa spiritualité, mais surtout un renforcement des protections. À mesure que les repères d'une collectivité, les repères moraux d'une collectivité s'estompent, à mesure la protection intérieure doit être forte, mais de toute une communauté, non pas simplement des hommes. Parce que, effectivement, une femme pourrait, quand elle voit son mari regarder à la télévision des choses pas nettes, elle dit « Mais qu'est-ce que tu regardes là ?» Et le prendre en faute d'un regard mal placé. Toute la question n'est pas là. Est-ce qu'on est ensemble pour être de meilleurs musulmans ou est-ce qu'on est le juge de la faute des autres ? Même quand on est la femme de son mari, même quand on est la fille de son père, même quand on est le frère de son frère. À partir d'un certain moment, si c'est cette réalité que nous sommes en train de vivre, et c'est cette réalité que nous sommes en train de vivre, regardons la réalité en face, une espèce d'agression par rapport à l'être masculin dans cette société-là, par le... Alors maintenant, il y a de plus en plus, effectivement, de, et j'en avais déjà parlé quand nous parlions des femmes, de cette espèce de mise en scène publicitaire du corps de l'homme. Et qui provoque, on le sait aussi, ben, tout ce que ça peut provoquer chez un certain nombre de femmes et de stimulations qui sont de même type. Donc on est dans la même situation, à part que tout ce qui est la réalité de ce stimuli par la femme est beaucoup plus important dans nos sociétés qu'il ne l'est par l'homme. Alors comment on fait? On va chercher nos fautes? On va se dire que de toute façon, alors, quand on est là le samedi soir... Tu parles. Alors là, les frères, c'est le top. Ils savent regarder, ça prend. Encore que. Il y en a vraiment de ce point de vue-là, ils n'ont pas le minimum de décence, même quand ils sont dans une communauté et parmi des frères et des sœurs, il y en a qui ne sont pas suffisamment dignes dans la façon dont ils portent leur regard. Mais on peut se dire qu'on est fort le samedi soir. Ce qui est très très important, c'est que notre vie, elle ne se fait pas ce samedi soir. Elle se fait toute la semaine. Alors comment on fait dans cette communauté pour essayer de trouver de la force? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement de trouver cet équilibre? Parce que qu'est-ce que ça donne ceci? Ça donne que quand tu as envie d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cette société-là, forcément tu vis un déséquilibre. Un déséquilibre parce qu'on essaie de stimuler ton corps, on essaye de stimuler tes instincts, et toi tu as envie de faire vivre ton cœur, et tu as envie de te protéger. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut revenir à une responsabilité collective. Et là, je m'adresse aux frères qui effectivement doivent faire ce travail. Parce que sans effort personnel, tu tombes. Sans effort personnel, tu tombes. Si effectivement tu ne fais pas attention à ton regard, tu ne fais pas attention à ton attitude, tu ne fais pas attention, la première responsabilité, elle est de l'homme. Et ça, ça demande un véritable travail de spiritualité personnelle, un véritable effort. Plus tu t'approches de Dieu, comme on l'a vu, plus tu es attaché aux éléments de la foi, plus tu seras protégé. de ces éléments, de cette tentation-là. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut, de ce point de vue-là, aller beaucoup plus loin dans notre rapport à nos principes et de notre rapport les uns avec les autres. Qu'est-ce que nous dit notre tradition de ce point de vue-là? Première chose qui nous est mise en évidence, une chose tout à fait particulière. Je vais vous raconter une histoire. Et on la connaît, cette histoire, et regardez, parce que nous, on n'en parle pas. Alors, ça, c'est un sujet tabou. Il ne faut surtout pas donner l'impression que tu es tenté par ce qu'on te montre. Je veux dire, les hommes de toute la planète le sont, mais les musulmans sont protégés. Ce qui est faux. Ce qui est faux, et on vit d'énormes malaises. Moi, je reçois et des lettres et des témoignages qui mettent en évidence la femme, de la part de femmes qui voient dans leur mari ces situations-là, parce que les hommes en parlent peu, c'est un sujet un tout petit peu tabou, qui voient des situations, de ce point de vue-là, d'énormes déséquilibres. Donc, à un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Comment on fait pour se protéger de ça? Eh bien, le prophète, c'est d'ailleurs un hadith authentique qui a été utilisé par un certain nombre de savants pour mettre en évidence que le niqab, c'est-à-dire le fait de ne voir que les yeux d'une femme, n'était pas la réalité à l'époque du prophète, n'était pas l'unique façon, et donc qui ont mis en évidence le fait que le hijab mettait en évidence le fait qu'on voit le visage. Et puis bon, vous connaissez les autres hadiths de ce point de vue-là, mais un de ces hadiths-là a été utilisé parce que c'est un hadith sahih. Le prophète, à un moment donné, c'est un être humain, et nous savons qu'il a cette qualité d'être humain, et il est modèle pour nous parce qu'il est humain, n'est-ce pas? Il est modèle pour nous parce qu'il est humain. Eh bien, comment il est, le prophète Hassan? Un jour, il voit une femme. Et cette femme, dans sa tenue et dans son être physique, a éveillé quelque chose en lui. Et le prophète Hassan, qu'est-ce qu'il a fait au moment où il a eu cette attirance-là? Il s'en est retourné vers son épouse, Zainab, radiallahu anha. Zainab, il est retourné. Donc, il a été attiré par l'illicite, éveillé par l'illicite, et il s'est protégé par le licite. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tentation à l'extérieur, elle existe. Et faire comme si on n'était jamais tenté, c'est totalement faux, c'est un mensonge. Toute la question, elle est, comment on fait pour se protéger? Alors, la première des choses que nous enseigne ce hadith, ces deux choses, elles sont fondamentales. La première des choses, c'est comment savons-nous que le prophète a eu cet éveil-là? Comment a-t-on pu le savoir? Ben, on l'a su parce qu'il en a parlé, n'est-ce pas? Il a dû le dire à un compagnon qui nous l'a rapporté dans un hadith authentique, n'est-ce pas? Ce qui a été dans son cœur, il en a parlé. Parce que le prophète, et c'est un grand enseignement du hadith, parce qu'il y en a certains, ils gardent la superficialité du hadith, et puis ils disent, voilà ce qu'il est arrivé, il est allé chercher dans le licite, contre l'illicite, il est allé se protéger dans l'illicite. Mais il y a quelque chose de plus important que cela, c'est qu'il en a parlé. C'est-à-dire que le prophète, a dit de son intériorité des choses, qu'il y a des hommes ici qui jamais ne parleront à personne, parce qu'ils ne trouveront jamais une oreille qui les écoute. Ils vivent des choses, il faut que je sois fort. Il est complètement dévasté à l'intérieur, mais quand tu le vois, tu as l'impression qu'il n'a jamais regardé une femme, ni de devant, ni de travers. Il est véritablement musulman pour l'ensemble de sa vie. C'est pas vrai. Et il y en a parmi nous qui vivent de ce point de vue-là. Et en réalité, et le prophète, il en parle à des compagnons. Il en parle, premier enseignement. Et la deuxième des choses, c'est effectivement ce qui est dit, le contenu du hadith. Et le contenu du hadith, quel est-il? Il est « le licite te protège de l'illicite ». Alors, la première des choses, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que dans cette communauté-là, et très tôt, et là, je ne parle pas simplement des gens qui sont mariés, je parle de ces jeunes, qui sont des jeunes adolescents. Alors, c'est vrai que pour les femmes, les jeunes filles, c'est la même chose, on en a déjà parlé. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les hommes. J'aimerais que vous regardiez la réalité en face. Il faut arrêter dans cette communauté de systématiquement parler « mes droits, mes devoirs ». Il faut regarder la réalité affective, émotionnelle, psychologique, humaine, finalement, de cette réalité-là. Parce qu'il n'y a pas de loi sans hommes. Et à force de parler que de loi, on a l'impression qu'on a des hommes, c'est des vrais robots. Vous voyez? Ça va, les lois, quand elles sont pour des robots. Mais s'il n'y a pas le discours sur le cœur, les lois, ça ne sert à rien. Vous parlez du cœur pour comprendre la loi. Eh bien, qu'est-ce que vivent, effectivement, de ce point de vue-là, les jeunes? Quand tu as 15 ans, non, aujourd'hui, quand tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans dans cette communauté, que tu es un jeune homme, la vie de ton corps et les stimulations qui te sont données, surtout quand vous le savez, certains d'entre vous ont vu ce que c'était que les lycées, quand vous êtes professeur, quand vous voyez ce qui peut se passer sur les campus. Je veux dire, un jeune homme qui n'a pas de stimulation instinctive, que ce soit au lycée ou à l'université, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Dans le type de comportement, le type de façon qu'on a de se comporter les uns avec les autres, c'est normal qu'il y a ceci. Alors, de quoi doit-on se souvenir quand on voit ce que le prophète Rasulullah a dit ? C'est que l'une des façons aussi de te protéger d'une fragilité, c'est d'en parler. D'en parler. Et qu'il faut que dans notre formation islamique, ceux qui s'occupent de ces jeunes, ils cessent de leur mentir en feu. Vous savez ce qu'il y a ? Il y a plusieurs mensonges. Et il y a des mensonges qu'on appelle des mensonges par omission. Voilà, tu devrais être un musulman parfait, mais tout ce que tu vis dans ton cœur, on n'en parle pas. C'est pas vrai. Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faut accompagner ces jeunes depuis leur jeune âge, par les questions qu'ils posent. Toutes les questions que ton corps pose à ta conscience, tu as le droit de me les poser. Si je suis ton formateur, tout ce qui te passe par la tête, tu dois pouvoir le poser. Et je ne vois pas pourquoi Aïcha radiallahu anha dit des femmes d'Ansar, bénis les femmes d'Ansar, que la pudeur n'empêche pas de poser des questions, pour que 15 siècles plus tard, toi tu m'empêches de poser des questions sous prétexte de fausse pudeur. On est en plein dans le marasme où tout nous appelle nos instincts et je dois me taire. Je sens rien, je vois rien. Je suis un bon musulman papa, je suis un bon musulman maman, je suis un bon musulman yachir. C'est faux. C'est du mensonge par omission. Et ce mensonge par omission suppose que l'on regarde ce que le prophète, il en a parlé, donc il faut pouvoir en parler. Donc il faut qu'un jeune, à partir de 12-13 ans, il ait aussi une écoute. Les questions que tu as, elles sont légitimes. Parle-en. Mais pour pouvoir en parler, il faut que j'ai des oreilles qui ne soient pas des oreilles de juge, mais des oreilles de compagnon. Accompagner ceci. Et puis, conseiller. Mais ça veut dire qu'en fait, il faut regarder la réalité en face. Il faut que quand tu es un papa, tu vois que ton fils, et puis c'est la même chose pour la fille, quand il a dans cette société 13 ans, 12 ans même, je veux dire, une de nos sœurs qui est remplaçante dans une institution arrive à l'école primaire, 12 ans. À l'école primaire, 12 ans. C'est une sœur, elle fait très très attention à sa tenue, elle arrive devant la porte, un de ces jeunes de 12 ans, l'épaule contre la porte, il lui dit « Ciao, baby !» 12 ans. Bon, quand tu le prends, tu le soulèves, tu le sors. 12 ans. 12 ans, ça veut dire, vous y voyez un tout petit peu le genre de comportement que ça peut vouloir induire. Et les éléments de séduction, maintenant, ça arrive à l'école primaire, où vous avez des jeunes filles qui ont bien compris comment on séduit. Vous en avez qui ont des tenues avec ces trucs qui arrivent là jusqu'en dessus du nombril, à l'école primaire. Bon, le jeune qui a 12 ans, un petit garçon là, musulman, très bien à la maison, hein, il ne pose jamais de questions sur rien. Il ne vit rien, lui, il ne voit rien. Il ne faut pas qu'il en parle. Alors que le prophète, as-salam, qui est un adulte, il parle de ça, et qui est notre exemple, eh bien, il faut qu'on commence à prendre des choses là. Les questions, le processus qui permet d'accompagner. Et c'est d'autant plus vrai à 18 ans, et c'est d'autant plus vrai à 20 ans. Et il y en a énormément qu'on ne parle pas, mais la réalité, quelle est-elle ? La réalité, c'est que les jeunes aujourd'hui dans notre communauté qui ont 20 ans, qui avant le mariage se sont protégés, sont une minorité. Vous le savez bien. Les quelques-uns qui viennent ici le samedi soir sont une minorité par rapport à tous ceux qui ne viennent pas, et qui vivent une vie qui est loin de tout ça. Parce que nous, on n'en parle pas. Parce que nous, on ne parle pas de ces réalités-là. D'essayer aussi d'accompagner dans le discours, premier élément. Et là aussi, ça va être, de ce point de vue-là, de reconnaître que nous avons à dialoguer sur ces questions-là et à protéger les adolescents dans un dialogue. Et puis, voilà, peut-être qu'effectivement, ben, certains iront dans l'excès, mais parler, c'est protéger. Parler, c'est commencer à protéger. Et c'est effectivement dire à un jeune homme, Je ne te parle pas de l'islam comme un idéal que tu n'atteins pas. Mais l'islam, il est tout près de toi. Et il commence déjà, n'importe quel musulman commence déjà par reconnaître ce que tu vis est normal. Les difficultés que tu as, c'est normal. Que tu sois attiré, c'est normal. Combien il y a de jeunes qui ont 18 ans et dont ils entendent des frères qui sont enracinés dans l'islam et qui leur disent c'est normal ce que tu vis. Maintenant, ce qui est important, c'est que tu saches comment te protéger. C'est-à-dire, on parle de la normalité et on essaye de se protéger plutôt que de parler d'un idéal que jamais personne n'atteint. Bien. Premier élément donc, un véritable discours là-dessus, une véritable formation. Et bien comprendre une chose, une formation qui se serait faite pour des musulmans comme elle était faite au Maroc et en Algérie, est non seulement contre-productive en Europe, mais elle pourrait être catastrophique. Catastrophique, c'est-à-dire de choses dont on ne parle pas dans le pays d'origine, ici quand on n'en parle pas, c'est contre-productif. Parce que dans le pays d'origine, ça protégeait, même si maintenant les choses ont bien changé, ça pouvait protéger un silence comme ceci, parce qu'on était dans un milieu culturellement orienté par les repères moraux. Mais ce n'est pas le cas ici, donc on est obligé de pouvoir discuter de ça. Et puis vous êtes étonné, des jeunes garçons, à 12 ans, à 13 ans, ils savent des choses, ils vivent des choses, ils voient des choses, ils entendent des choses, ils voient des comportements dont il faut pouvoir dire quelque chose. Et surtout, apaiser le déchirement intérieur que beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui, jusqu'à l'âge du mariage. La deuxième des choses que nous dit le hadith, le licite te protège de l'illicite. Et le prophète, salam, il est allé trouver sa femme pour ne pas être attiré par une autre femme. Et là, de la même façon, il est en train de nous donner un enseignement vraiment très important. Qu'est-ce qui est stimulé dans cette société-là? Qu'est-ce qui est stimulé? Toutes les dimensions de l'instinct et de la sexualité. Et que si le prophète y retourne voir sa femme, c'est que ce qu'elle lui donne le protège de quelque chose qui pourrait lui manquer et qui l'attirerait à l'extérieur, n'est-ce pas? Hélas, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous rappelle le verset du Coran. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Et à plusieurs niveaux, nous avons une dimension de protection. Au niveau de l'adolescence, par quoi nous sommes attirés? Nous sommes attirés aussi par des proximités physiques. Et là, ce qui est totalement délirant dans notre communauté, c'est que nous faisons comme si ça n'existait pas. Et qu'il y a à l'intérieur par rapport à nos propres enfants, il y a des choses dont on a besoin effectivement de tendresse. La tendresse par rapport à une jeune femme adolescente à l'intérieur de sa famille, mais un jeune homme à l'intérieur de sa famille, cette proximité de tendresse et cette proximité physique, on en a besoin. Et le problème, c'est qu'on fait comme si non, il ne faut pas parler de ça. Et le prophète, on sait quel type de manifestation de tendresse il avait avec ses épouses, et nous, on n'en parle pas. Donc la première des choses, c'est non seulement aussi de parler, mais les manifestations de tendresse sont capitales à l'intérieur des familles. Même par rapport à nos enfants, à nos jeunes enfants, à nos adolescents, qu'il y ait quelque chose qui soit de la protection physique, et on a besoin. Aujourd'hui, sentir de la chaleur humaine, sentir une caresse, sentir une présence, quand c'est dans l'illicite, dans l'espace de la famille, des parents par rapport à leurs enfants, où on en est? Pourquoi ça ne se présente pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a cette espèce de crainte par rapport à la tendresse? Alors ça, c'est déjà avant le mariage. Mais dans le mariage, ensuite, c'est une chose qui est déterminante. On sort et on voit toutes ces images. On sort et on voit toutes ces espèces de stimuli instinctifs. Et on rentre dans la maison, et là, on suppose qu'il devrait ne rien y avoir. Alors que qu'est-ce qui doit être caractéristique? Et là, moi je me retourne vers les frères en disant encore une fois, vous devez faire un effort, mais vers les femmes, vers les épouses, entre celles qui effectivement vont se préparer à se marier, celles qui sont mariées, celles qui déjà le sont et qui voient ce que peut être cette société, qu'on réalise que ça veut dire protéger par sa présence de tendresse, d'affection et de don de soi un homme dans cette société-là. Pour être protégé à l'extérieur, il faut recevoir à l'intérieur. Et pour une femme dans une société occidentale, c'est une multiplication d'affections et de dons. Arrêtons de penser, t'es musulman, je suis musulmane, on va vivre une vie dans la paix, c'est pas vrai. T'es musulman et quand tu sors, t'es agressé dans ton corps. Et ce qui est demandé à une musulmane par rapport à son époux, c'est d'être le manteau qui le protégera de l'illicite. Exactement comme Zainab l'a fait pour le prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire énormément de présence affective et de présence de tendresse. Alors bien entendu, comprenez-moi bien, c'est pas que dans un sens. Bien entendu, c'est dans les deux sens. Mais protéger son mari par la tendresse qu'on lui donne, c'est lui faire prendre sur lui une protection par rapport à la tendresse ou à la sexualité à laquelle on l'appelle. Et c'est vrai au niveau de la tendresse. Regardez le prophète Hassan. Là aussi, c'est des choses incroyables. On est coincé, frileux et menteur. On est devenu un peu puritain, comme ça on n'ose pas parler de certaines choses. Regardez les hadiths du prophète Hassan. On sait que quand Aïcha était indisposée, c'est-à-dire que la relation sexuelle n'était pas possible, le prophète Hassan avait avec elle des moments d'une tendresse extrêmement profonde. Elle le dit, il était extrêmement tendre et il avait besoin de proximité physique avec elle en période d'indisposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète, qui est notre modèle, il manifestait par rapport à sa femme un besoin de tendresse, un besoin d'affection et qu'elle lui donnait cette affection, cette tendresse. N'est-ce pas? On en a besoin. Et surtout quand tu es dans une société, à plus forte raison quand tu es dans une société où tout tourne autour du corps et de l'instinct, forcément tu as besoin d'une protection. C'est ça être le manteau de ton mari, être le manteau de l'homme. Et même par rapport à son... Même parfois, des jeunes filles ne peuvent pas se rendre compte, des filles par rapport à leur père. Donner de la tendresse à son père, c'est le protéger de la tendresse à laquelle on l'appelle à l'extérieur. Être tendre avec son père, être tendre dans ses gestes et pouvoir être présente physiquement dans quelque chose qui est noble dans notre religion, un rapport de fille à père qui soit noble et non pas, bien entendu, dans la perversion que cela peut avoir dans certaines situations où ça dérape. Non, on parle de proximité, de tendresse, de proximité, du lien simplement qu'on donne à la présence de son père, la présence de son mari. Eh bien, cette tendresse-là, c'est une protection. Elles sont un vêtement pour vous. Et à plus forte raison aussi, au niveau de la... du besoin de la vie du corps. De la vie du corps. Et de la vie du corps, il doit trouver quelque chose qui lui soit donné à la maison pour qu'il ne soit pas attiré par des manques à l'extérieur. Quand tu es protégé, quand tu reçois à l'intérieur, tu es protégé par rapport aux attirances extérieures. Mais vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que pour le rôle d'une femme musulmane, comme épouse, comme enfant, mais comme épouse, là on parle plutôt de ceci, l'importance qu'il y a de savoir donner de la tendresse et offrir aussi au niveau de la sexualité ce qui fait qu'un homme n'est pas à aller chercher à l'extérieur. Parce qu'il sera attiré par ce qui lui manque. Puisque c'est arrivé au prophète, c'est vous dire combien c'est important qu'on soit conscient de ceci à l'intérieur des demeures. Et plutôt que de regarder son mari, de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il regarde ?» Il faut à partir d'un certain moment de se poser la question « Mais qu'est-ce que je lui donne pour qu'il regarde moi ?» Et c'est pas rien. Et c'est pas rien de discuter de ceci et de se dire, on a à revoir la qualité affective et de tendresse et de la dimension de sexualité à l'intérieur de nos couples. Et là, j'aimerais vous dire une chose, il faut arrêter de faire semblant dans nos couples aujourd'hui, comme si c'était le top parce qu'il suffit qu'on soit musulman, de je ne sais pas combien j'entends par semaine de situations de crise à l'intérieur des couples où il y a effectivement des manques d'expression de tendresse. Il y a des hommes, bien entendu, qui négligent leur femme, mais il y a des femmes, de ce point de vue-là, elles négligent totalement leur mari. Et alors, là, il y a une chose qui est totalement folle. il y a des choses qui sont normales et qui peuvent devenir licites ou illicites. Oui, je vous prends un exemple. Qu'on soit stimulé par quelque chose, qu'on soit séduit, Zuyinalines, il nous dit, il a embelli les choses pour que ça nous attire. Mais le fait d'être attiré et séduit, il y a une bonne séduction et il y a une mauvaise séduction, n'est-ce pas? Il y a une mauvaise séduction, c'est que quand cette séduction t'amène vers le haram, c'est-à-dire quand tu commences à regarder des choses qu'il ne faut pas que tu regardes, quand tu commences à faire des choses, alors là tu es séduit par des choses que tu dois éviter. Mais il y a des séductions qui sont dans l'ordre du halal. Et là on a par exemple des choses totalement aberrantes. On a l'impression, et certaines femmes le vivent de cette façon-là, et certains hommes le vivent de cette façon-là, que comme je suis musulman, attention, il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. La séduction, ce n'est pas pour un musulman, tu comprends? Un musulman, il n'est jamais séduit par rien, il est sérieux. Un vrai robot, c'est pas vrai. À la maison, une épouse qui a bien compris ce quel type d'agression un homme vit à l'extérieur, elle doit, non pas seulement, elle peut vivre de la dimension d'une séduction dans le licite. On a à vivre ça. On a à trouver à la maison des choses qui sont de l'ordre de la séduction jusqu'à la dimension du corps et jusqu'à la dimension. C'est licite, c'est halal. Tu ne portes pas ton hijab et tu ne portes pas la même attitude avec l'homme avec lequel tu vis qu'avec tous les hommes. Autant la séduction avec laquelle tu peux attirer à l'extérieur, c'est non. Mais autant à l'intérieur, c'est oui, parce que c'est une dimension de sa protection. Il y a une séduction halal. Et il y a des femmes, quand elles se marient, il n'y a plus rien. Tu me prends comme je suis. Il n'y a absolument plus de dimension de stimulation de la vie qui va te protéger des instincts. Et c'est tout faux. Ça, c'est tout faux. Ça, on vit dans une société où on a besoin de se protéger. Toute cette dimension-là, c'est pour ça qu'en parlant de l'homme, il faut que les femmes soient là et en parlant des femmes, les hommes doivent être là. Parce que c'est des responsabilités communes. On va se protéger à deux. T'es ma protection, je suis ta protection. Et ce qui peut te manquer, c'est par là où tu vas craquer. Vous connaissez la formule? Une chaîne vaut par son maillon le plus faible. Tu regardes, tu veux savoir la solidité d'une chaîne, cherche le maillon le plus faible. Et si dans un homme ou si dans une femme, le maillon le plus faible, c'est sa tendresse, c'est le besoin de tendresse, c'est le besoin d'amour, c'est le besoin de proximité physique, ça va casser là où tu ne lui donneras pas. Et dans une société comme la société européenne, la société française, la pression qu'il y a sur cette dimension du cœur, de l'émotion, de la tendresse et de la sexualité est telle que ça impose. Comprenez-moi bien, impose à toute femme musulmane de multiplier le don de tendresse, le don d'amour et le don de protection du corps dans cette société-là. Beaucoup plus que si tu vivais dans une société musulmane. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, protéger un homme dans cette société, c'est un surcroît du don de soi. C'est-à-dire, si je ne veux pas que tu regardes ailleurs, je vais faire en sorte que tu me vois. Dans la dimension de la tendresse et dans la dimension du corps, de la sexualité. Et c'est comme ça que je te protège. Parce que Zainab, c'est comme ça qu'elle a protégé le prophète. Et si le prophète en a eu besoin, tu penses bien qu'en plein milieu de Roubaix, en plein milieu du nord de la France, j'en ai besoin. Et il ne faut pas se mentir. Alors, encore une fois, ça demande aux femmes une grande lucidité par rapport à cette société-là et une grande lucidité par rapport à ce qui est effectivement la dimension de l'homme. Et puis il faut aussi en parler. Il faut en parler. Il faut oser dans les couples, il faut oser dans les familles, il faut oser en parler, comme le prophète a fait tout ça en parler. Le hadith dit deux choses. Parler pour se protéger et se protéger en donnant ce qui peut manquer à l'autre. Donc ça c'est la première dimension et on a vu, qu'est-ce qu'on voit? On voit un énorme déséquilibre. Il y a énormément d'hommes aujourd'hui qui vivent des manques terribles, énormément de femmes qui vivent des manques terribles. Et ça, c'est parce qu'on n'en parle pas. On ne veut pas regarder cette réalité en face. Il y a des savants. Regardez-moi ça. Vous lisez Suyuti, 14e siècle. Il vous dit tout ce qui est permis dans l'ordre de la sexualité pour satisfaire son conjoint au 14e siècle. Que si je vous prends une page et je vous la lis ici en public, il y en a qui seraient choqués. On ne parle pas de ces choses-là, ça c'est pour les non-musulmans. Nous, on a une relation à son mari, on a une relation à son papa, on a une relation de tendresse, c'est un code.
C'est yajouz, la yajouz. À part ça, il n'y a rien. Et puis tu vois des couples qui se déchirent parce qu'on n'arrive pas à regarder les réalités en face. Et les hommes, de ce point de vue-là, sont en train de vivre, dans notre communauté, des réalités extrêmement difficiles. Donc le dialogue, donc le retour au principe, ce que je vous ai dit au travers de l'exemple du prophète Hassan, puis l'autre chose. Il faut absolument lutter dans cette communauté sur les mauvaises habitudes culturelles. Il y a de bonnes habitudes culturelles qui sont venues des pays d'origine, il faut les garder. Mais il y a de mauvaises habitudes culturelles, et l'une de ces habitudes culturelles, je vous en avais déjà parlé, c'est qu'il y a des choses dont on ne parle pas. Hein? Quand tu es dans une famille orientale, vous voyez, je vais commencer par l'Égypte, hein? Ensuite, Tunisie, l'Algérie, le Maroc, ça se vit comme ça. Ça se vit tellement comme ça que tu es dévasté à l'intérieur, mais tu ne montres rien. Tu es mal dans ton cœur, mal dans ton corps, mal dans ton être, mais tu n'en parles pas. Et ça, il faut lutter contre ces traits culturels. Et je vous avais dit déjà une fois, pour ce qui concernait les femmes, quand je mettais la situation des femmes, où je disais, mais il faut dire à la femme que l'on aime, qu'on l'aime. Il faut dire que je t'aime et qu'il faut manifester ceci. Un de nos frères, à la fin de la conférence, un frère d'Algérie était venu me dire, il me dit, elle était très très bien ta conférence, j'ai beaucoup aimé, mais tu sais, nous, on n'arrive pas. On n'arrive pas à dire je t'aime. C'est pas dans notre culture. Je dis, mais l'islam te dit de le dire. Donc tu vas faire passer l'islam au-delà de ta culture. Et quand on est en plein milieu de la France, les principes islamiques doivent venir au-delà de tous nos traits culturels, qui sont des traits culturels qui peuvent jouer là-bas, mais qui ne fonctionnent pas ici. Notez que je ne suis même pas sûr qu'ils fonctionnent là-bas. Donc ici, ça veut dire qu'il faut multiplier les expressions. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en face de votre téléviseur, quand vous regardez un film qui est lié à n'importe quelle situation, vous avez vu comme il s'exprime ? Il n'arrête pas d'en parler. C'est dans le vocabulaire courant. Et nous, non. Tu dis rien. Je suis ta femme en islam, tu dois savoir que je t'aime. Je suis ta femme en islam. Évident. Et puis les hommes, c'est la même chose. Ça ne va pas, ça. Ces gestes de protection, ces paroles de protection, et je le dis à tous les âges de la vie, pour les jeunes hommes adolescents, pour ceux qui vont se préparer à se marier, pour les mamans, il faut se parler, il faut lutter contre ces traits culturels. Deuxième dimension qui pose un problème, c'est un problème assez important également, c'est celui sur lequel je vais beaucoup insister. Aussi, c'est celui du rôle de l'homme aujourd'hui. Et là aussi, on ne se rend pas compte dans cette communauté que si on ne réagit pas contre cette situation-là, on va aussi au-devant de vraies fractures. La réalité, quelle est-elle ? Elle est que parmi les communautés les plus fragilisés dans la société française, par exemple, prenons que cet exemple-là, et en particulier au nord de la France, c'est-à-dire plutôt qui vous touche, vous. La communauté ou les communautés qui sont le plus touchées par le chômage, le sous-emploi, sont les communautés d'origine immigrée. Où vous avez des jeunes hommes ou des hommes qui ont Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5 au chômage, touchés par le chômage et qui, de ce point de vue-là, sont atteints à deux niveaux de leur être. Le premier, sur l'image qu'on a de soi. J'aimerais quand même vous rappeler que quand tu es au chômage dans une société, l'image que tu as de soi, elle est dégradée. La société est en train de te dire « tu ne sers à rien ». D'accord ? Alors on le sait dans toutes les études de sociologie. On sait que ce qui peut perturber, casser, briser un homme ou un couple, c'est la situation de chômage. Et que ça doit être, pour nous, on le sait. C'est-à-dire un acte d'exception. Alors qu'il y en a certains, je ne sais même pas comment ils font, ils entretiennent leur situation de chômage. Oui. Et même il y en a certains, ils disent, tu vois, moi je suis au chômage parce que je fais de la dawa. Ça, c'est le top du top. Tu tires profit du soutien de l'État pour faire de la dawa. Tout faux. T'as tout faux. De A jusqu'à Z. La situation de chômage est une situation contre laquelle on lutte jusqu'à ce qu'on trouve du travail. Et on sait qu'on ne trouve pas facilement du travail. Mais quelle est la situation aujourd'hui dans la communauté ? Quand on a nos jeunes là maintenant dans les cités, qu'est-ce qu'on est en train de leur présenter comme avenir ? qu'est-ce qu'un jeune de 15 ans, un jeune homme de 15 ans, dans la société dans laquelle nous sommes, voit de sa propre image comme valorisation? On est en train de lui dire, toi, d'abord, tu as trois défauts. Tu es musulman ou d'origine ou arabe, d'accord? Tu es mauvais à l'école ou tu es au chômage, puis en plus tu vis dans la cité. T'es trois fois à la marge. Cette espèce de rapport qu'on a par rapport à soi-même, le rapport qu'on a vis-à-vis de l'image que les jeunes sont en train de se faire d'eux-mêmes, et même les adultes sont en train de se faire d'eux-mêmes, aujourd'hui dans cette société-là, c'est une image dégradée. Mieux, pour être plus explicite, complexée. Et il n'y a pas aujourd'hui, dans ce que l'on voit pour un homme dans cette société française, beaucoup d'entre les musulmans qui ont une image de soi qui est une image d'auto-respectabilité. Alors ça, on fait comme si ça n'existait pas. Mais il y en a certains, effectivement, ils reviennent à la maison, il n'y a pas beaucoup de travail, ou quand il y a du travail, c'est un travail qui est peut-être dégradant, ou un travail qui est sous-évalué par rapport à ce qu'on est. Vous avez effectivement des jeunes qui ont des bacs plus je ne sais pas quoi et qui ne trouvent rien. Et en plus, dans les cités, l'avenir, c'est rien, on ne va rien leur donner. Mais un jeune qui est comme ceci à 15 ans, 17 ans, qui est délinquant, marginal dans la cité, mais qu'est-ce qui devient à 30 ans? Quelle image il a de soi? Quelle image ils ont, ces jeunes, d'eux-mêmes? Quand vous les voyez hurler comme ils hurlent, casser comme ils cassent, crier comme ils crient, ou rejeter comme ils rejettent, ce n'est pas un signe de fierté, c'est un signe de mal-être. Oui, ils sont fiers pour cacher que ça ne va pas bien, que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes, elle est dégradée. Comme je le racontais une fois, tu es dans un métro, tu le regardes droit dans les yeux, il a envie de te casser la tête, tu le regardes trop longtemps. Tu le regardes trop longtemps, c'est-à-dire que tu le gênes, un regard porté sur soi qui n'est pas du tout à l'aise avec soi-même. Aujourd'hui, c'est la réalité de la majorité de la communauté musulmane en France. C'est des hommes au sens masculin du terme, qui ont une image d'eux-mêmes eu égard à la société, qui passent par le chômage, ou qui passent par la délinquance, ou qui passent par la marge, et qui passent en plus par le déni de respectabilité dû au fait que tu es un arabe. Racisme, sous-emploi, marge de la société, c'est une image de soi extrêmement négative et qui touche aujourd'hui une majorité de la communauté. Alors comment on fait un couple? Comment est-ce qu'on répond à ce que nous dit l'islam? T'as une responsabilité dans la famille, et on voit en plus des choses qui commencent à devenir absolument incroyables. Hormis les jeunes femmes qui portent le hijab et qui ne trouvent pour ainsi dire pas ou très peu de travail dans la société française, les jeunes filles d'origine immigrée qui ne portent pas le hijab et qui ne s'habillent pas selon les normes musulmanes trouvent plus de travail que les hommes. Et dans certaines situations, c'est la femme qui travaille, qui apporte de l'argent à la maison, l'autre il ne peut pas, il a une image de lui-même qui est dégradée. Quelle image ça donne par rapport à toutes nos références musulmanes? Ça donne des êtres déchirés. Ou par exemple, là maintenant, nous, on a une délégation de Bosniaques qui sont arrivés, qui travaillent, ils prennent beaucoup plus les femmes que les hommes. Et de jeunes femmes, maintenant, trouvent plus de travail. Et vous avez des hommes, ils sont là, ils sont plantés dans cette société à ne pas trouver de travail, et puis en même temps, ils voient autour d'eux leur propre sœur ou leur propre femme travailler. Ça ne pose pas un problème, ceci, pour nous, que la femme travaille. Ce que ça pose et ce qui m'interpelle aujourd'hui et que j'aimerais vous mettre en évidence de façon extrêmement claire, c'est quoi? C'est que le rôle et l'image que les hommes ont d'eux-mêmes dans la société française, dans une société qui est la plus fortement atteinte, dans une communauté qui est la plus fortement atteinte par le chômage, c'est une image dégradée. Dégradée. Et que si cette communauté ensemble ne travaille pas dans tout le domaine social pour lutter contre ce chômage, pour avoir une présence, pour réintégrer par les voies du travail une présence qui soit une présence beaucoup plus affirmée, on continuera à développer des êtres complexés. Et ça, c'est un des grands problèmes. Aujourd'hui, sur le plan du travail, je veux dire, moi je travaille avec un certain nombre de frères qui font de la darwa, je veux dire, vous sentez qu'ils ne sont pas bien. Ils ont parfois pas d'emploi, ils dépensent de l'énergie dans la darwa, mais ils sont pas bien, ils sont mal. Et ils rentrent à la maison, déjà ils sont pas souvent à la maison, mais quand ils rentrent à la maison, il n'y a pas de travail, il y a peu d'argent, il y a une image, on n'arrive même pas à tenir la maison, quoi. On n'arrive même pas à tenir la maison, c'est ma responsabilité devant Dieu, j'arrive pas. Cette société, elle me donne quoi? Elle me donne, après des années d'études ou après une formation, rien. et une image extrêmement négative. Si on ne regarde pas cette réalité en face, on ne comprend pas, et il y a beaucoup de femmes qui ne comprennent pas que parfois le problème il vient de là. Un homme qui est déchiré de ne pas être reconnu, et on a en islam une chose très très importante, qui est reconnue dans, sociologiquement dans toutes les sociétés, la valorisation par le travail. Tu n'as pas de travail, tu te dévalorises. Et c'est la réalité de beaucoup de nos jeunes maintenant, pour lesquels ben, l'horizon du travail, c'est quoi? C'est rien. Une société qui ne les aime pas et qui les marginalise et, ou qui les pousse parfois à s'auto-marginaliser et pour eux de croire que c'est eux qui décident ce qu'en fait ils subissent. Bien, regardons la réalité en face. C'est là la majorité de notre communauté dans cette situation-là. Ceux qui aujourd'hui ont le travail réussissent à avoir un équilibre par leur travail dans l'espace familial sont une minorité. Une minorité. Et donc là, c'est un vrai problème du statut de l'homme. Alors on peut, là maintenant je peux, on imagine qu'on est dans un cours extrêmement classique sur l'islam. L'homme, responsable de la famille, gère sa situation avec la société, apporte l'argent, mène la famille vers le meilleur. Alors tu dis ça à quelqu'un, le type il te dit, ouais, ben, où tu veux que je les mène vers le meilleur? J'ai pas d'argent, je suis déconsidéré dans cette société. Où? De quoi tu me parles? Tu es en train de me parler d'un idéal qui est tellement loin, ça n'a rien à voir avec ma réalité. Un discours islamique qui ne dit pas, qui ne regarde pas les choses en face. Et quand tu as des êtres humains, des hommes en l'occurrence ici, puisque c'est notre sujet, qui vivent autant de désordre par rapport à leur engagement social, il faut reprendre le discours à partir de ces réalités, la reconstruire. Il faut revoir l'ensemble de notre discours par rapport à ça. Et il faut que les femmes aussi se rendent compte que là, elles doivent être d'autant plus compréhensive et d'autant plus présente pour la construction que les hommes ont d'eux-mêmes, de l'image que les hommes ont d'eux-mêmes. Troisième plan, et c'est l'avant-dernier avant la conclusion, c'est celui de la famille. Alors, vous avez remarqué personnellement des déséquilibres et des déchirements sur le plan émotif, sur le plan affectif. Là aussi, qu'on a dit tout à l'heure, on n'en parle pas, on fait l'effort, en fait on est particulièrement faible, et cette espèce de mise en scène qu'il y a dans la communauté, les hommes ne parlent pas de ça. Bon, alors déjà, personnellement, c'est pas fameux, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on fait comme si. Et le pire pour quelqu'un qui est avec Dieu, le pire pour quelqu'un qui a envie d'être sincère, c'est cette formule comme si, faire comme si, cette espèce de mise en scène. Donc on l'a vu personnellement. Maintenant, on le voit sur le domaine du travail, ce dont on vient de parler, c'est une image de soi extrêmement négative, avec une société qui vous rejette, avec un chômage qui vous atteint, et puis en plus, une marginalité qui vous atteint extrêmement fort, extrêmement fort. Je vous avais déjà rappelé qu'en ne représentant pas 10% de la population française aujourd'hui, les populations d'origine maghrébine, donc majoritairement musulmanes, représentent 25% de la population carcérale sur le territoire. Donc ça veut dire que c'est dramatique. La réalité, c'est que c'est dramatique. Il n'y a pas de valorisation. Puis vient maintenant la situation dans les familles. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans les familles en Occident? Et là aussi, permettez-moi de vous dire, ça suffit, hein, le discours qui nous freine, nous spécifique, nous les musulmans. Moi, ça me fait rire maintenant. Il y en a qui arrivent là comme ça, qui disent, nous les musulmans, la famille, c'est ça. Alors, ils vous font un super discours théorique sur la famille musulmane. Là encore, à des milliers, des années-lumière de la réalité. Et puis, ils parlent d'un idéal. Attendez, ça suffit maintenant. On veut une vraie famille musulmane, mais on ne la veut pas penser dans l'idéal, on veut qu'elle parte de nos réalités. Et nos réalités, qu'est-ce que c'est? C'est que nous vivons exactement comme les autres familles en Europe aujourd'hui. Il y a les mêmes crises et les mêmes problèmes. Les divorces sont en train de se multiplier, les types de comportements sont en train de se confirmer, il y a dans les familles musulmanes de l'inceste, il y a dans les familles musulmanes des abus, il y a dans les familles musulmanes la même façon de la violence par rapport aux enfants, de la violence par rapport aux femmes, il y a dans les familles musulmanes effectivement le même type de dysfonctionnement avec la place du père et la place du père dans la relation de famille qui est exactement du même type. Nous, on a des principes et on se dit, attention, il faut qu'on se protège. Alors, c'est bien, il faut qu'on parle de ces principes, mais il faut regarder la réalité. Comment je vais faire entre les principes que j'ai, la réalité que la communauté vit, pour lier les deux? Comment est-ce qu'on fait? Quel est le type d'enseignement que je dois transmettre à ma communauté pour qu'on comprenne les principes, mais qu'on parte de la réalité? Pas qu'on dise les principes, c'est là, puis que les gens se disent, c'est tellement loin que j'y arriverai jamais. Aujourd'hui, moi, ce que je reçois, c'est du courrier où il y a de l'inceste, c'est de la violence. Il y a des situations où le frère il est en train de parler à la République entière dans sa localité ou même dans son quartier ou même au niveau du pays, de la da'wa, tu regardes ses enfants, mais tu t'as peur. T'as peur, pourquoi? Parce que sa femme ou ceux qui t'entourent, ils disent, attends, il est absent, il ne sait pas éduquer ses enfants, il va éduquer la planète. Bien, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, il faut aussi, au niveau de la famille, faire le lien. Qu'est-ce que nous disent les études aujourd'hui qui sont sur le plan de l'espace familial relevantes ou qui nous disent des choses qui pourraient nous intéresser? Deux ou trois choses qu'on peut garder et on verra qu'on est exactement les mêmes que les autres. La première des choses par rapport à l'homme, on est en train de vivre une époque où ce qui est manifeste, c'est quoi? C'est le syndrome du père absent. Le syndrome du père absent, on en a déjà parlé, qu'est-ce que c'est? Il est là, ça ne veut pas dire que c'est une famille monoparentale. Il est là, mais en matière de gestion des affaires de la famille, il est carrément absent, même dans la relation avec ses enfants. Il n'est que l'autorité qui interdit, jamais l'autorité qui construit. Donc, il y a déjà une remise en cause du phénomène de l'autorité. Parce que dans nos familles, traditionnellement, quand tu étais en Égypte, quand il y avait le papa, il y a des choses, attention, c'est comme ça, il l'a dit, c'est comme ça. Il te dit, là, c'est là. Commence pas. D'accord? Et il avait une autorité, il avait une présence, c'était le symbole de l'autorité. Ça, c'est en train de s'effriter. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société du dialogue et de la compréhension. Je n'obéis à un ordre que quand je l'ai compris. Non pas parce que t'es mon père et que je t'écoute, mais ici, il faut que je comprenne pour que je fasse. Et nous, avec notre rapport à la tradition, l'autorité, on dit, oh, pour qui il se prend là? Il va me dire, c'est comme ça. Non, je vais commencer à discuter. Et moi, personnellement, je vois des choses. C'est-à-dire, à un moment donné, vous dites, non, mais où je suis là? Même par rapport à mes propres enfants, il y a des choses que moi, je ne pouvais pas imaginer que j'allais questionner ou interpeller mon père là-dessus, avec quelqu'un qui était extrêmement ouvert, qui provoquait, lui, la discussion. J'avais un père, rahimahullah, et une maman, ils provoquent la discussion, ils aimaient ça dans la famille. Mais même comme ça, tu te dis, attends, c'est pas vrai. Tu ne vas pas lui demander n'importe quoi, tu ne vas pas. Et là, tu as des enfants, à un moment donné, ils te posent des questions, toi, tu ne pouvais pas imaginer poser la 100e. Mais pour lui, c'est pas qu'il est en train de faire quelque chose de mal, il est habitué à ça. Je vais vers le professeur, je vais vers l'institutrice, je vais vers l'instituteur, je pose des questions. Voilà, j'ai ma question, puis tu me réponds. Alors, lui, dans son esprit, à ton fils ou à ta fille, dans son esprit, c'est que c'est un acte de respect qu'il vienne te la poser à toi. Et toi, avec tes anciennes... Il dit, mais qu'est-ce qu'il pose comme question, lui? Toi, le fait qu'il te pose une question pourrait être compris... avec l'ancienne tradition, qu'il n'a pas à te poser ces questions. Mais lui, en plus, il te pose la question, il te la pose à toi. C'est en fait, c'est la preuve qu'il attend de toi quelque chose. Et toi, tu pourrais être considéré que c'est une question de trop, mais c'est une question tellement nécessaire. Et il vient te la poser à toi. Le fait qu'il te la pose à toi, c'est un acte de confiance. Je la pose à mon papa, je la pose à ma maman. Alors qu'il aurait pu la taire. Donc le fait qu'il la pose, c'est un acte de confiance. Toi, tu pourrais avoir l'impression que c'est un acte d'agression. Que c'est plus tellement ton fils, c'est plus tellement ta fille. Mais il est dans une société où l'autorité se discute. L'autorité se discute. Je ne fais pas quelque chose quand je la ne comprends pas. Et les enfants, de ce point de vue-là, ont besoin de ceci. Alors pour les papas, énormément de choses sont bouleversées. D'une part, dans l'espace familial, ils sont présents sans être présents, et on s'aperçoit de quoi? Qu'il y a de plus en plus de femmes qui peuvent travailler, gérer la situation de la famille, et puis des hommes qui sont présents, mais qui ne sont présents que quand il s'agit d'interdire. Et puis des femmes, elles jouent des fois ce rôle-là. Quand il s'agit d'interdire au fils, va demander à ton père. Et le papa, là. Aïe, hein? Oui ou non? Moi, je suis l'ordre moral, je suis totalement absent, mais je vais te dire oui ou non. Quant à la construction de l'identité dans la famille et du pôle que le père doit jouer en matière de présence, en matière aussi d'une autorité qui accompagne, non pas d'une autorité simplement qui interdit, eh bien, on vit exactement la même chose. Et là, aujourd'hui, qu'on soit clair, les familles musulmanes ne font pas exception à la règle. Le père est absent de la même façon et le mari ne joue pas son rôle de la même façon. C'est la même façon d'être devant la télévision, c'est la même façon d'être au travail, c'est la même démission à l'intérieur de la maison, c'est la même démission au niveau du dialogue. Et le pire, c'est que beaucoup des femmes et beaucoup des enfants l'admettent et vivent comme ça et ils le confirment. Alors à partir d'un certain moment, il faut dire deux choses. Il faut dire aux hommes, ça suffit. je veux dire qu'il faut réinvestir l'espace familial. Ça ne sert à rien de faire 10 000 cours sur la famille en islam. Commence à en avoir marre de cette façon d'aborder les choses, toujours théoriquement. La famille en islam, pour nous, c'est très important. On parle de l'idéal de la famille en islam et puis on ne regarde pas nos réalités. Mais c'est quoi la famille musulmane en plein milieu de Roubaix en l'an 2001 ? Qu'est-ce que ça va être pour qu'on puisse réussir à faire tenir une famille ? Ça va être de dire, voilà comment tu devrais être, voilà comment tu devrais être, et de conditionnel en conditionnel, on oublie l'indicatif présent. Et l'indicatif présent, c'est vraiment les pieds dans la réalité. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, effectivement, il faut que les hommes et ceux qui sont là réinvestissent le champ de leur famille. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, ils aient véritablement un rôle, qu'ils soient un rôle d'accompagnant, un rôle de présence. Mais il faut aussi que ceux qui participent de leur famille, à leur famille, eh bien, ils jouent ce rôle-là. Et là, moi, c'est ce que je demande, que les femmes, les épouses, refusent comme l'un des principes islamiques les plus nécessaires aujourd'hui pour la famille, que l'homme ne devienne que la garantie de l'interdit ou l'autorité de la limite. T'es dans ta famille, il faut qu'on parle. Qu'elle le refuse, ça veut dire avec l'énergie qu'une femme doit avoir pour sauver une famille et un couple, elle dit, attends, on a envie que tu parles, on a envie que tu sois là, on a envie que tu participes à quelque chose de la vie de famille. Alors c'est difficile, mais il faut insister. Il faut se battre contre les mauvaises habitudes qui disent, bon, ben, toi t'es un peu en marge, nous on fait... Non, tu dois être. Alors c'est des choses simples, moi j'insiste énormément là-dessus. J'en ai parlé quand il s'agissait de faire vivre la famille. On mange ensemble. Et t'es avec nous. T'es avec nous pour manger. Et on mange ensemble. C'est pas quand tu viens, tu manges. Et puis nous, on a mangé avant, on a mangé après. Il y a des choses qu'on fait ensemble. T'as une place ici. Tu vois, cette chaise-là, c'est ta place. Mais pas ta place pour interdire, ta place pour vivre avec nous. Il n'y a pas d'homme absent ici. T'es présent avec nous, t'es présent pour construire. Et c'est un ordre islamique, c'est-à-dire que les femmes doivent pousser leur mari à leur dire, et que le mari le comprenne. T'es pas là pour interdire, et t'es pas là simplement pour venir le soir manger, partir le matin travailler. T'es là pour vivre avec nous, et il y a des moments donnés pour que tu nous donnes. Alors qu'on peut pas le demander tout le temps. Je suis en train de vivre une vie avec une surcharge d'âme, mais il y a des moments, il y a personne qui s'immisce dans la famille, on construit ensemble, parce qu'il faut être là, et puis il faut être présent. Et puis là, ça demande aux femmes d'avoir cette attitude extrêmement positive et extrêmement exigeante. Puis aussi, c'est pas simplement par des ordres, c'est aussi par des façons de parler à son mari. C'est aussi une façon de lui demander son opinion. C'est aussi une façon de provoquer la discussion. C'est aussi une façon de lui dire « Écoute, un tel de nos enfants ou un tel que je connais vit ça, qu'est-ce que tu en penses ?»« Je te questionne, il faut que tu me répondes. » C'est une façon de dire à quelqu'un « T'as une place dans cette maison. » Mais ça, il y a beaucoup trop de femmes qui finalement, de lassitude en lassitude, vous savez, le pire, c'est cette lassitude ou cette façon d'être, puis on se dit « Bon, bah allez. » Et puis après, on laisse, et ça se casse la figure. Ça peut tenir une année, deux ans, comme une femme qui ne donne pas à son mari cette présence affective et cette présence sexuelle, ça tient une année, deux ans, trois ans. Puis après, vous voyez, c'est une catastrophe parce qu'on reste des êtres humains, et en particulier en Europe. Et bien, de la même façon ici, il faut stimuler la présence. Mais il faut bien comprendre, moi je peux parler aux hommes en leur disant, il faut prendre sa place à la maison. Mais là, le rôle des épouses, de ce point de vue-là, il est nécessaire, il est fondamental. Tu prends ta... Vous savez, on prend la place dans un lieu par la façon dont on nous la donne. La façon dont on nous la donne. Et les épouses, une femme ici, elle doit donner sa place à un homme par les questions qu'elle lui pose, pas simplement par les ordres. Mais il y a une autre chose aussi. Et là, je me tourne vers les enfants. Là aussi, c'est très important. Combien d'entre vous sont allés dans une famille où vous êtes là maintenant? On parle du syndrome du père absent. Ils sont allés vers leur père et dire, mais qu'est-ce que tu vis, papa? Est-ce que tu peux me raconter ce que tu vis? Tu peux me raconter ce que tu as vécu aujourd'hui? Tu peux me raconter ton enfance? Tu peux me dire comment tu t'es construit, comment tu t'es... Combien il y a d'enfants, garçons ou filles, qui vont vers leur père et qui lui posent la question, qui lui dit, mais t'as ta place, tu m'intéresses, papa? Certains, ils ont juste peur qu'ils rentrent pour qu'ils disent non, je ne peux pas sortir. Non, je ne peux pas faire ci. Mais combien il y en a qui ont bien compris ici? J'ai envie que papa soit avec nous à la maison. J'ai des questions à lui poser. Papa, tu m'intéresses. Je t'aime, tu m'intéresses. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis? Quel est ton travail? Qu'est-ce qui te touche? Demander à son père une question pour qu'il ait sa place à l'intérieur de la maison. Ça, c'est capital. C'est capital. Et ça demande effectivement de vraiment poser la question pour lutter contre ce syndrome du père absent, nécessairement absent. Combien il y en a de ce point de vue-là qui posent ces questions? Donc ça veut dire, dans la famille, qu'il faut qu'on trouve cette place. Alors on le sait aussi, la notion de responsable du foyer qu'il y a en islam, elle est mise à mal par rapport à la situation dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là je crois effectivement que par rapport à cela, il y a un vrai engagement que nous avons à comprendre dans ces déstructurations qu'il y a dans les familles par rapport à l'engagement social pour pouvoir trouver du travail, mais aussi par rapport à l'engagement des épouses dans ce cadre-là. Mais vous avez bien compris, là je ne suis pas en train de parler simplement des hommes et de leurs épouses, je suis en train de parler aussi des enfants. Je veux dire, faites une place à votre père dans l'espace familial, même si lui ne la prend pas, mais une question au bon moment, une préoccupation, quand t'es son fils, quand t'es sa fille, tu m'intéresses. Et ça, c'est aussi une façon de reconstruire l'espace familial. Pour terminer, la conclusion, elle est celle-ci. On a mis en évidence la dimension affective, la dimension du déséquilibre intérieur. On a mis aussi en évidence la dimension du rapport à la société avec une image de soi extrêmement négative. Les hommes vivent ça extrêmement difficilement. Le fait qu'il faut qu'on parle aussi de tout ça. Le fait qu'il faut qu'on parle de tout ça, comme le prophète Al-Sat-Salam en parlait, et puis qu'on fasse un espace, qui est l'espace de la famille, où on aille dans le dialogue, il faut parler, qu'on aille dans la place, puis on aille aussi dans les exigences. Aujourd'hui, faire une famille, protéger un homme, comprenez bien ce que je suis en train de dire, c'est un djihad, c'est un effort de toute une communauté, mais aussi des femmes de ce point de vue-là. Et moi, je suis désolé de voir des femmes qui entrent dans leur pratique musulmane et qui en oublient qu'avant d'être simplement des croyantes, elles sont des femmes. Il faut que tu sois une femme qui porte la foi. Il ne faut pas que tu sois un être qui porte la foi et que tu oublies que tu es une femme. Et qu'une femme dans notre... En islam, on ne nous a jamais demandé de refuser le naturel. On nous a demandé de le maîtriser. Et qu'une femme doit rester une femme croyante, sachant quels sont les besoins d'un homme, sachant quelles sont les fragilités d'un homme, sachant qu'est-ce que c'est qu'être un mari, sachant qu'est-ce que c'est qu'être un adolescent, et que cette responsabilité, elle est aussi la sienne. Ça fait partie, si on doit revenir à cet endroit-là, de ses responsabilités de femme, et de femme aussi qui porte la foi. Et que ce n'est pas parce qu'on est deux musulmans, toi tu es musulman, moi je suis musulmane, que ça va marcher. Autant il faut vous souvenir de tout ce que j'ai dit sur la question de la femme, autant il faut vous souvenir de tout ce que j'ai dit sur la question de l'homme, et puis de travailler là-dessus, l'image que les hommes ont d'eux-mêmes, il y a un travail à faire, l'équilibre intérieur par la discussion, le travail social par le fait qu'il faut effectivement donner des espaces du travail, et puis un dernier élément, lutter contre tout trait culturel, algérien, marocain, tunisien, turc, égyptien, quel qu'il soit, qui nous ferait oublier des principes islamiques et qui serait contre-productif dans la société française. Si dans nos sociétés ou nos cultures d'origine, on ne parlait pas, en plein milieu de l'Europe, il faut parler. Si en plein milieu, dans nos sociétés d'origine, l'autorité venait sans discussion au cœur de l'Europe, ça se discute et on parle. Et on discute avec ses enfants. Si, en plein milieu de nos cultures d'origine, le rapport entre un homme et une femme passe par le silence de la présence de l'autre, en plein cœur de l'Europe, il faut parler. Parce qu'il faut qu'on se dise ces choses-là. Et il se pourrait que des traits culturels qui fonctionnent ici soient contre-productifs, qui fonctionnaient là-bas soient contre-productifs ici. Je pense qu'il faut que nous regardions la réalité en face. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'aiment pas qu'on parle comme ceci. Moi, je ne suis pas au service de la mise en scène. Je ne suis pas au service de principes moraux comme ceci qui nous feraient planer. J'essaie de regarder les réalités en face. Et je vous promets que quand vous recevez le courrier que je reçois, quand vous discutez avec les frères de la façon dont parfois il m'arrive d'entendre des choses, vous avez envie de dire à cette communauté deux choses. D'une, soit on se réveille en regardant la réalité en face, qu'on sache qu'il y a de gros déchirements, qu'il y a de gros déséquilibres, soit on fait comme si, et puis on sera un petit cercle de convaincus, et puis tous les autres, ils seront loin de nous, puis ils diront, écoutez, l'islam dont vous nous parlez, il n'a rien à voir avec la vie. Nous, on a envie de vivre comme des musulmans, on n'a pas envie de faire comme si on était des musulmans, et puis d'aller à côté de la vie, parce que c'est pas ce que Allah Ta'ala nous a demandé. Voilà un tout petit peu les dimensions sur lesquelles je pense qu'il faut que nous réfléchissions. Wallahu a'lamu wa a'lamu ahkam.